Alors bonjour, bonjour, tiens, salut, ça fait plaisir de vous voir et de voir des nouveaux. Aujourd'hui, on est sur les 12 petits prophètes, c'est ça, hein? On en est là, on a fait les grands prophètes avant, Isaïe il y a 3 semaines, Jérémie, enfin il y a 2 semaines, Jérémie il y a la semaine passée, non c'est ça, voilà, Isaïe il y a 3 semaines, Jérémie il y a 2 semaines, Ézéchiel la semaine passée, ça y est, j'y suis. Et aujourd'hui, on voit le 4e grand prophète. En fait, les 12 petits prophètes, eh ben, figurez-vous que c'est un seul livre. C'est pas les 12 livres des 12 petits prophètes, c'est le livre des 12 petits prophètes. Donc, même s'il y a 12 livres, même si techniquement dans vos Bibles, ça apparaît sous la forme de 12 livres, en réalité, il faut les comprendre comme étant un seul livre. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, 12. C'est pas un chiffre au hasard. Vous remarquez, il y en a pas 8, il y en a pas 10, il y en a pas 15, il y en a 12. 12, c'est quoi comme chiffre?
Le nombre de
tribus d'Israël. Voilà, c'est un chiffre qui est récurrent, c'est un chiffre symbolique. Dans la Bible, quand on veut des chiffres qui tombent bien, on va dire 7, on va dire 12, etc. etc. Et de fait, dans les témoignages anciens, autant qu'à l'intérieur même des 12 petits prophètes, on peut voir des indices qu'il y avait une unité littéraire sur ces 12 petits prophètes. Alors, je vais vous dire lesquels. D'un point de vue extérieur déjà, si on regarde ce qui se passe, si on regarde les témoignages extérieurs, les anciens témoignages, les listes de livres de la Bible, dans le judaïsme, qui est dans le Talmud, on vous dit qu'effectivement, il y a un livre, et que c'est un livre des 12 petits prophètes. Si vous regardez les témoignages de ceux qui donnent le nombre de livres, par exemple Flavius Joseph, parle de 22 livres. Il ne donne pas la liste, malheureusement. Mais il donne le nombre de livres prophétiques. Ou dans le 4e livre d'Esdras, qui date aussi probablement de la fin du 1er siècle de notre ère, on vous dit qu'il y a 24 livres canoniques. Si déjà sur ces 22 ou ces 24, il y en a déjà 12 qui sont les 12 petits prophètes, on ne s'en sort pas. Alors, ça prouve bien qu'ils étaient déjà considérés comme un seul livre. On a un témoignage aussi indirect dans le livre du Siracide. Et puis surtout, quand on regarde les manuscrits les plus anciens, les manuscrits de la mer morte, vous savez que j'adore les manuscrits de la mer morte, eh bien, il y a des manuscrits, on remarque qu'il y a des livres qui sont copiés sur un même rouleau. C'est assez rare, c'est un phénomène assez rare, à vrai dire, et j'ai réexaminé tout ça sérieusement l'an passé, à l'occasion d'une présentation qui va être publiée cette année dans un livre fait par nos collègues ici à la fac. En fait, les seuls cas où on voit deux livres qui s'enchaînent sur un même rouleau, on a pour le Pentateuque, et puis on a pour justement les 12 petits prophètes. Ces 12 petits prophètes, on a la preuve que, en tout cas sur certains manuscrits, ils étaient copiés les uns à la suite des autres. Et lorsque un même fragment, une même feuille de parchemin préserve la fin d'un petit prophète et le début d'un autre, c'est dans l'ordre, c'est le même ordre que celui qu'on a dans les Bibles hébraïques. Donc ça prouve qu'on... Et là, on est au tournant de notre ère, si vous voulez. Donc ça veut dire que quand même, dans l'Antiquité déjà, on percevait ces 12 petits prophètes comme ne formant qu'un seul livre. Alors ça, c'est pour les témoignages externes. Pour les témoignages internes, maintenant, si on regarde les textes eux-mêmes, en réalité, on observe, comment dire... Comme quand on fait... Je sais pas, ma mère, par exemple, elle fait beaucoup de trucs genre du patchwork et des trucs comme ça. Et donc, elle prend plein de pièces de tissu qu'elle met ensemble. Et donc, il y a des pièces qui servent à joindre les deux. Je ne sais pas comment on dit. Bref. Et on observe le même phénomène entre les 12 petits prophètes. On voit qu'ils sont assemblés de telle sorte que ça s'enchaîne. Et même qu'on n'hésite pas à rédiger la fin d'un livre pour qu'elle s'accorde avec le début du livre suivant. Je vous donne quelques petits exemples. Si vous regardez Joël, la fin du livre de Joël, vous avez un verset, Joël chapitre 4, verset 16, on nous dit « De Sion le Seigneur rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix ». C'est le début du verset 16. Et si vous regardez juste à côté le prophète Amos qui suit, le verset 2, que lisons-nous ? De Sion le Seigneur rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un phénomène de reprise. On reprend la fin ou un élément de la fin du livre qui précède pour dire « Regardez, je m'inscris dans la continuité ». C'est un enchaînement, si vous voulez. Mais de la même manière, si vous restez à Amos, vous regardez à la fin du livre d'Amos. Et si vous regardez chapitre 9, donc le dernier chapitre d'Amos, les versets 2 à 4 Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est question de pénétrer dans le séjour des morts, que sa main l'arrachera, s'il monte au ciel, il les fera descendre, s'il se cache au sommet du Carmel, etc. Enfin bref, eh bien en fait, l'idée de monter, de faire descendre, etc. Vous retrouvez la même chose dans le livre d'Abdias qui suit au verset 4. Quand tu prendrais de la hauteur, quand ton nid serait placé, je t'en ferai descendre. Vous voyez, c'est le même. On retrouve la même idée. Pareil, si vous allez voir le livre de Sophonie, par exemple, on va pas tous les faire, mais le livre de Sophonie s'enchaîne avec le livre d'Agée. À la fin du livre de Sophonie, si vous regardez le verset 19, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent, je sauverai ceux qui boitent, je rassemblerai ceux qui étaient bénis, je ferai de vous louanges et un nom sur toute la terre où ils ont honte. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, je ferai de vous un nom, une louange parmi tous les peuples de la terre, etc. etc. Bon, eh ben, il est question donc de rassembler le peuple, de rétablir le peuple. Eh bien, juste après, si vous regardez le prophète Agée, on vous dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. Et donc, on évoque aussi cette thématique de la bâtie d'Israël. Enfin bref, voilà. Et puis, il y a des liens, bien sûr, entre Agée, Zacharie, Malachi. Enfin bon, on y verra. De toute façon, je pense qu'on ne va pas tout faire aujourd'hui, parce que c'est un peu long. Mais on a cette thématique commune du temple à l'époque du retour de l'exil. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment un enchaînement entre les petits prophètes. De telle sorte que l'ordre n'est pas anodin. Alors à propos de l'ordre, justement, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les manuscrits anciens, et notamment les manuscrits en grec d'un côté et les manuscrits hébreux de l'autre, on a un ordre légèrement différent pour certains des 12 petits prophètes. En l'occurrence, Joël, Abdias et Jonas. Ils ne sont pas situés exactement au même endroit dans les livres. Alors c'est un peu embêtant en un sens, puisque précisément on disait que Joël est suivi par Amos, et que la fin de Joël est reprise au début d'Amos. Or, si Joël est à un autre endroit dans les 12 petits prophètes, ça ne va plus. Alors, en même temps, ces remaniements, on en a déjà parlé à propos des prophètes précédents, notamment Jérémie. On avait dit, mais regardez, tel prophète et pas tel chapitre du prophète n'est pas nécessairement au même endroit. Hein. Eh bien, si vous considérez les 12 petits prophètes comme un ensemble, on peut imaginer que de la même manière, des rédacteurs placent un livre avant ou après un autre, selon des buts légèrement différents. Alors, cela dit, ça veut dire que si ces remaniements ont pris place, ils ont dû prendre place avant que précisément on rédige ces versets qui reprennent la fin de l'un au début de l'autre. Si vous prenez l'exemple, justement, je vous disais, de ce verset de Joël, Joël 4,16, qui est repris en Amos 1,2, c'est dixit, le même verset, ça veut dire que le rédacteur le fait consciemment. Le rédacteur sait, très bien, j'ai un verset que je reprends ailleurs. Ça veut dire que ces phases rédactionnelles, elles sont faites à une époque où on estime que l'ordre des prophètes est figé. Ça veut dire que l'ordre de la Septante, s'il est effectivement attesté, alors c'est difficile parce que les manuscrits de la Septante sont plus tardifs, etc., etc., mais si on imagine que l'ordre de la Septante est peut-être antérieur, peut-être 3e, 2e siècle avant notre ère, ça veut dire que ces dernières rédactions, ces dernières coutures, où on apporte la touche finale aux 12 petits prophètes, ça veut dire qu'ils prennent place après le 3e ou le 2e siècle avant notre ère, peut-être. Donc peut-être que c'est au 2e, 1er siècle avant notre ère qu'on est encore en train de peaufiner, d'améliorer, de perfectionner, si vous voulez, ces 12 petits prophètes. Donc ça veut dire qu'il y a des rédactions, il y a probablement des rédactions jusque tard. Et ça, c'est le même phénomène. On en a parlé notamment avec le livre de Samuel et des rois. On y reviendra quand on en parlera des chroniques. On a des indices de rédaction jusqu'au 1er siècle avant notre ère, ou en tout cas jusqu'au tournant de notre ère. À mon avis, la rédaction de la Bible hébraïque, elle s'arrête au moment où justement on veut figer la liste des livres dont on reconnaît l'autorité, dont on veut figer l'ordre des livres dont on reconnaît l'autorité. Et ça, les indices qu'on a, c'est fin du 1er siècle, début du 2e siècle de notre ère. On commence à faire ce travail-là. Et ça va durer jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère. Donc, à mon avis, avant la fin du 1er siècle de notre ère, il y a encore une fluidité au niveau du texte. Et on continue à rédiger des textes. Et donc, il est possible que certains versets, notamment ceux qui visent à donner a donné corps à l'ensemble des 12 petits prophètes pour qu'ils forment un ensemble et un seul livre, que ces 12 fassent un seul livre, ça a pu prendre place, je ne sais pas, jusqu'à la fin, disons, du premier millénaire avant notre ère. Donc ça veut dire une très longue période rédactionnelle, puisque vous allez le voir, certains de ces prophètes, eux, ont pu vivre au 9e, 8e siècle avant notre ère. Alors c'est pas parce qu'ils auraient vécu à cette époque-là qu'il y a déjà une rédaction à cette époque-là, ça veut dire que de leur vivant, on a rédigé quelque chose. Peut-être qu'au début, c'était une transmission orale, j'en sais rien. En tout cas, il y a des traditions liées à certains personnages qui sont, pour certaines, datées. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment envisager cette longue rédaction, cette longue fresque. Les 12 petits prophètes, à eux seuls, présentent une longue fresque de l'activité prophétique tout au long du premier millénaire avant notre ère. Pour ce qui est de la thématique des 12 petits prophètes, finalement, on va retrouver les mêmes choses que ce qu'on a vu pour les grands prophètes. On va retrouver à peu près la même chose. Le jugement, la condamnation, les métaphores, la symbolique, les oracles, les visions, les actes prophétiques ou symboliques, et puis bien sûr l'annonce de restauration. On préserve un reste qu'on va restaurer, et évidemment l'idéologie davidique qui va se développer chez certains prophètes. On envisage le retour d'un roi, fils de David, avec le salut du peuple. Et pour certains, évidemment, le rapport avec les nations, avec des oracles de jugement contre les nations, mais aussi, parfois, l'idée d'un salut universel. Donc ça, c'est pour brosser un petit peu l'ensemble. Maintenant, on va les regarder les uns après les autres, si vous le voulez bien. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire aujourd'hui, je ne pense pas. Mais on va commencer, puis on continuera gentiment la semaine prochaine. Alors, nous commençons avec le livre d'Osée. C'est un livre qui est daté. Quand je dis le livre, je veux dire le prophète lui-même, ce prophète Osée, on nous dit à quelle époque il a vécu, au premier verset, on nous dit qu'il a prophétisé au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc tout ça, ça nous situe le contexte historique au 8e siècle avant notre ère. Alors c'est un long prophète, hein. Parmi les 12 petits prophètes, on a quand même 14 chapitres, hein. Donc c'est quand même, vous verrez qu'il y a d'autres petits prophètes qui font un chapitre. Lui, il fait quand même 14 chapitres, c'est quand même assez conséquent. Alors, au niveau de la structure, on a trois parties, trois sections de taille assez inégale qui sont toutes introduites par la notion de litige ou de procès. La première section couvre les trois premiers chapitres. La deuxième section couvre des chapitres 4 à 11. Et la troisième section, les chapitres 12 à 14. Et donc à chaque fois, on a cette notion de litige qui est annoncée. C'est le mot rive en hébreu, la racine, hein, resh yod bet, pardon, en hébreu. On le trouve au chapitre 2, verset 4. Accusez votre mère car elle n'est pas ma femme, etc. Ça, c'est pour la première section. La deuxième section, on trouvera au chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur a un litige avec les habitants du pays, un litige ou un procès. Et puis on retrouvera, et donc verset 1 et puis verset 4. Et de la même manière, pour introduire la troisième section, c'est-à-dire au chapitre 12, vous aurez au verset 3, de la même manière, le même terme qui va apparaître. Le Seigneur a un litige avec Juda. Donc vous voyez, chacune de ces trois sections est introduite par ce mot-clé. Le litige, le procès. Et puis chacune de ces trois sections est malgré tout pas très gaie dans l'ensemble. Là, c'est souvent justement le litige, le procès. On dit ce qu'on reproche au peuple. Mais à la fin, on a quand même une petite parole d'encouragement qui évoque le salut. Par exemple, la première section qui coule les chapitres 1 à 3, si vous regardez le tout dernier verset, chapitre 3, verset 5, les Israélites reviendront, ils chercheront le Seigneur leur Dieu et David leur roi, effrayés, ils s'approcheront du Seigneur et de sa bonté dans la suite des temps. Donc on envisage toujours le retour du peuple, la restauration du peuple, le salut, la restauration. Des fois c'est juste un tout petit verset à la fin. De la même manière, la deuxième section qui couvre les chapitres 4 à 11, si vous regardez tout à la fin du chapitre 11, vous avez quelques paroles d'encouragement. Verset 9, « Je n'agirai pas contre selon ma colère ardente. Je ne viendrai pas avec fureur. Verset 10, ils suivront le Seigneur, et les fils accourront de la mer en tremblant, ils accourront de l'Égypte, etc., etc. Et je les ferai habiter chez eux, déclaration du Seigneur à la fin du verset 11. Et puis de la même manière, à la fin de la troisième section, chapitre 14, vous avez également quelques versets d'encouragement. Regardez le chapitre 14, par exemple le verset 5, « Je guérirai leur infidélité, je les aimerai d'un amour généreux. » Donc vous voyez, ces trois sections qui sont à la fois caractérisées par l'usage du mot litige ou procès, et puis qui s'achèvent par une parole d'encouragement. Alors on va regarder rapidement ces trois sections. La première section sont les chapitres 1 à 3. On a un acte symbolique. Rappelez-vous, on l'a vu quand Dieu demande au prophète « Fais ceci, fais cela, prends une cruche, jette-la par terre, brise-la, couche-toi sur un côté pendant X jours, et puis ensuite tu te coucheras de l'autre côté, etc. » Enfin voilà, pendant X jours. C'est ce comportement, ces actes qui sont symboliques et qui permettent d'illustrer le propos du prophète, on va le retrouver là de la même manière. Rappelez-vous également dans Isaïe, où par exemple Dieu dit, voilà, tu vas avoir un fils va naître, tu vas lui donner tel nom. Cher Yashuv, Immanuel, Maher Shalal Hashbaz, chapitre 7, 8, 9 d'Isaïe. Rappelez-vous, les noms des enfants ont une signification. On avait retrouvé ça également dans le prophète Jérémie, on annonce la venue d'un une naissance prophétique. Et bien là, on va retrouver le même phénomène, pousser un peu plus loin, à la limite de ce qui est acceptable, c'est presque choquant. Regardez ce que Dieu dit au verset 2, chapitre 1, verset 2. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends une prostituée et des enfants de la prostitution. » Verset 3, il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle fut enceinte, lui donna un fils. Le Seigneur lui dit, « Appelle-le du nom de Jisréel. » Donc ça, il a un premier fils. Donc Dieu dit à Osée d'épouser une prostituée. Là encore, si certains d'entre vous songent à faire carrière dans le prophétisme, réfléchissez bien avant de vous engager. Vous ne savez pas ce que Dieu pourrait vous demander. Imaginez un peu, c'est brutal. Imaginez le choc. Alors il le fait, donc il a un enfant, premier enfant, qui s'appelle Jisréel. Un peu plus loin, verset 6, il a un deuxième enfant, Lo Ruhama. Un peu plus loin, verset 9, il a un troisième enfant, Lo Ami. Alors, ces noms ne sont pas très gais. Hein. Lo Ami, ça veut dire pas mon peuple. Moi, j'hésiterais à donner des noms comme ça à mes enfants, c'est un peu. Bref. Donc, évidemment, cette union avec une prostituée et les noms de ses enfants sont symboliques. Maintenant, on est habitué. On a vu Isaïe, on a vu Jérémie. Vous connaissez le principe maintenant. Même si c'est choquant, on comprend ce qui se passe. Et évidemment, c'est une image, c'est une comparaison de la relation entre Dieu et Israël. Israël est l'épouse de Dieu, donc cette image, on l'a déjà vue, une épouse infidèle et même une épouse prostituée. Et si le prophète a ce comportement qui est choquant, imaginez les contemporains du prophète, mais il est fou, Osée, mais qu'est-ce qu'il fait, mais, et puis quelle idée de donner des noms pareils à ses enfants, etc. Enfin, les gens sont censés être choqués par son attitude. En réalité, c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu chez Isaïe. Et je rappelle qu'Isaïe est censé avoir également exercé son activité prophétique à la même période. Grosso modo. En tout cas, 8e siècle. Donc, on nous dit, verset 4, chapitre 2, verset 4, « Accusez votre mère, car elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari, qu'elle ôte de son visage les signes de sa prostitution. » Vous voyez, on parle de prostitution. Verset 6, « Je n'aurai pas compassion de ses fils, car ce sont des fils de prostitution. » Je n'aurai pas compassion de ses fils, ça renvoie au nom du deuxième fils, enfin pardon, c'est une fille, la fille qui s'appelle Lo Ruhama, qui signifie littéralement « on n'a pas eu compassion d'elle. » Donc celle dont on n'a pas eu compassion. Donc, on accuse le peuple de cette infidélité, et cette infidélité, bien sûr, c'est le fait d'aller avec d'autres dieux, de vénérer d'autres dieux. Regardez au verset 10, verset 10b, « Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait des offrandes au Baal. » Et vous connaissez le dieu Baal, on l'a évoqué notamment dans le premier livre des Rois, avec Élie contre les prophètes de Baal. Baal, c'est le dieu cananéen, de la fertilité, le dieu de l'orage, le dieu de la guerre. Il est représenté souvent de profil, avec à la main, ils jettent la foudre, mais en dessous, et la pluie, et souvent en dessous, il y a des blés. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est le dieu de l'orage, donc l'orage détruit, il foudroie, mais en même temps, l'orage, c'est aussi la pluie, c'est aussi ce qui donne la fertilité. Donc il y a toujours un rapport un peu ambigu à ce dieu. Quand on voit le culte au dieu Baal, il y a toujours ce rapport un peu ambigu. On le craint, on en a peur. C'est aussi le dieu guerrier, le dieu de la guerre, mais en même temps, c'est lui qui donne la fertilité. Les champs, mais la fertilité également féminine. Donc c'est aussi un dieu qu'on peut invoquer en cas de stérilité, même s'il y a des déesses de fertilité pour ça également. Alors, il y a d'ailleurs un jeu de mots par rapport à ce dieu Baal. Au verset 18, chapitre 2, verset 18, « En ce jour-là, déclaration du Seigneur, tu ne m'appelleras plus mon homme, Ish, en hébreu, tu m'appelleras mon homme, Ish, tu ne m'appelleras plus mon mari, et c'est Baal en hébreu. Le mot Baal en hébreu, c'est le dieu Baal, bien sûr, mais avant d'être le dieu Baal, ça a le sens de maître ou de maître, de seigneur. Et c'est utilisé pour des propriétaires terriens. À un moment donné, il est question des propriétaires de la ville, dans le livre des juges, par exemple, quand on dit, voilà, on s'adresse à un moment donné, ce serait, si vous voulez, l'équivalent des citoyens dans la ville grecque, dans la cité grecque, ce sont ceux qui sont les notables de la ville, on les appelle les Baal de la ville, c'est-à-dire les maîtres de la ville, ceux qui ont les clés de la ville, si vous voulez. Mais c'est également, donc, on est propriétaire d'un terrain, propriétaire d'une maison, propriétaire d'esclaves, on est également propriétaire d'une femme. Alors, je suis désolé, ça nous choque aujourd'hui, ça ne nous plaît certainement pas. Hier soir, j'ai été voir Lincoln au cinéma. Donc, c'est sûr que toute la question d'être propriétaire d'un être humain, et même si c'est son épouse, enfin, c'est un peu choquant pour nous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, le terme Baal est utilisé pour dire mon mari. Et à vrai dire, le plus choquant, c'est que c'est encore en usage en hébreu moderne. Donc j'étais choqué, je vais en Israël et je te présente mon mari en hébreu, je te présente mon Baal. Alors je trouve que c'est... Bon, moi j'ai posé la question, je ne voulais pas un peu, je ne sais pas, essayer d'introduire un nouveau terme, faire évoluer un peu la langue, je ne sais pas, enfin bref. Bon. Et donc là on joue sur ce jeu de mots, c'est-à-dire que le mari c'est le Baal, or précisément Israël est une épouse infidèle, son Baal entre guillemets c'est Yahvé, mais au lieu d'avoir son Baal comme Yahvé, elle va avoir un autre Baal qui est le dieu qui précisément s'appelle Baal. Donc vous voyez, le jeu de mots, ça marche en hébreu, je suis désolé, ça ne marche pas bien en français. D'où l'importance d'apprendre l'hébreu, bien sûr, mais je prêche à des convaincus. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce jeu de mots ici. À la fin du chapitre 2, on reprend les noms des trois enfants, verset 24, Jisréel, au verset 25, Loruhama et Lohami. Et bien sûr, il y a un renversement, on dit, je dirais le contraire, justement, je dirais à Lohami, tu es mon peuple. Donc je dirais à celui qui s'appelle Lohami, c'est-à-dire il s'appelle... pas mon peuple, je lui dirais si tu es mon peuple. Donc voilà, c'est des jeux de mots sur les noms des enfants, ça marche évidemment là encore en hébreu. Au chapitre 3, on revient sur cette notion, on a de nouveau l'idée de Dieu qui demande au prophète, il lui dit, chapitre 3, verset 1er, « Va encore, aime une femme aimée d'un compagnon, une femme adultère. Aime-la comme Yahvé aime les Israélites. » Donc il va aimer cette femme qui est une femme adultère, une femme qui le trompe. Avec, là encore, cette notion du prophète qui va aimer la femme en sachant pourtant qu'elle a été adultère et qui lui dit « ne sois plus adultère ». Verset 3, je lui dis « reste longtemps à moi, ne te prostitue pas, ne sois à aucun homme, je ferai de même envers toi ». Verset 4, car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans pierre levée, sans éphod et sans teraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront le Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi. Effrayés, ils s'approcheront du Seigneur et de sa bonté dans la suite des temps. Donc il y a cette idée que... tout en sachant bien que Dieu sache pertinemment qu'Israël est adultère et qu'Israël se prostitue, eh bien, il l'aime quand même et il veut lui donner cet espoir et la racheter son peuple. Donc ça, c'est pour la première section. La deuxième section, chapitre 4 à 11, donc on repart sur l'idée de nouveau de ce procès, de ce litige, chapitre 4, verset 1, le Seigneur a un litige avec les habitants du pays. Et là, on va attaquer de nouveau l'infidélité. Regardez toujours au verset 1er, parce qu'il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu. Verset 11, il est question de prostitution à nouveau. Verset 12, mon peuple interroge son morceau de bois, c'est son bâton qui lui parle. Parce qu'un souffle de prostitution les égare, ils se prostituent loin de leur Dieu. Il sacrifie sur le sommet des montagnes, etc. Donc je ne vais pas lire la suite, mais vous voyez, on retrouve la même thématique en réalité. On reproche au peuple son infidélité. L'infidélité est illustrée par la métaphore de la prostitution. Dans ces chapitres un peu plus développés, la section est un peu plus grosse, hein, 4 à 11, vous voyez, on a quand même plus de chapitres. Du coup, on rentre dans les détails. On insiste notamment sur la responsabilité des responsables du peuple. Ceux qui sont à la tête du peuple ont évidemment une responsabilité plus importante. Donc ils sont mentionnés. Hein. Regardez chapitre 4, verset 9, « Il en sera du prêtre comme du peuple. » Il est question des chefs, verset 18. Chapitre 5, verset 1er, « Écoutez, prêtre. Prête l'oreille, maison du roi. » Donc il est question du prêtre, du roi. « C'est à vous que le jugement s'adresse. » Donc on critique ici, vous avez la critique du pouvoir avec à la fois le pouvoir sacerdotal, donc le pouvoir religieux, et aussi le pouvoir politique, le pouvoir royal. Donc il y a ces deux composantes du pouvoir et ceux-là, on les attaque nommément. Regardez un peu plus loin, verset 10, « Les princes de Juda. » Donc cette fois-ci, on attaque plus précisément les chefs du peuple. On reproche au peuple son infidélité et sa religiosité. Regardez par exemple chapitre 6, verset 6. « Je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. » Alors ça, rappelez-vous, c'est là encore c'est un topos. On l'a évoqué plusieurs fois. Déjà dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, c'était déjà le problème de Saül. Le premier roi que Dieu avait nommé à la tête du peuple a, de façon répétée, désobéi à Dieu, y compris en voulant faire des sacrifices, alors que ce n'était pas à lui de le faire. Et donc Dieu explique que c'est pas le sacrifice n'est pas le geste en soi n'est pas performatif, pour reprendre des termes de théologie qu'on applique aujourd'hui à l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il suffit pas de faire le rituel avec la bonne formule qui convient bien et ça marche à tous les coups, pas du tout. Ce qui compte, c'est bien sûr l'attitude qu'on a. Alors le vocabulaire de l'adultère revient. Regardez chapitre 7, verset 4, par exemple. On a de nouveau ce vocabulaire. Quant à la critique du pouvoir politique, donc on reproche au peuple son infidélité sur le plan religieux, mais également sur le plan politique. Alors, l'infidélité sur le plan religieux, on en a parlé, c'est bien sûr d'aller faire des sacrifices contrairement, disons, aux règles que Dieu a données. Dieu dit, voilà comment faire les sacrifices. On a vu le Pentateuque, on a vu le Lévitique, on a vu tout ça. Bon, vous voyez qu'il y a quand même cette notion de dire on n'adore pas Dieu n'importe comment, et puis surtout on n'adore pas d'autres dieux. Sur un plan politique, ce qu'on reproche aux responsables du peuple, c'est de ne pas se fier à Dieu, de ne pas suivre ses instructions, en particulier de ne pas avoir confiance en Dieu dans leur rapport avec les autres nations. Dieu est celui qui donne la victoire, Dieu est celui qui protège, c'est Yahvé qui fait tout ça, et au lieu de s'attendre à Yahvé, leur Dieu, ils vont contracter des alliances avec les autres nations. Et rappelez-vous, je le disais encore les semaines précédentes, il y a deux, au premier millénaire avant notre ère, il y a deux blocs géopolitiques importants, la Mésopotamie et l'Égypte. Et la côte levantine, au bord de la Méditerranée, sert de zone tampon. C'est là qu'on se bat. Les Égyptiens ne vont pas jusqu'en Mésopotamie pour combattre les Mésopotamiens. Les Mésopotamiens ne vont pas jusqu'en Égypte pour affronter les Égyptiens. Où est le champ de bataille? Eh bien, c'est au milieu. Et le milieu, c'est où? Eh bien, c'est précisément la côte méditerranéenne. Donc, la Syrie, la région de Aram, la zone araméenne, israélite, phénicienne, judéenne, etc. Donc, c'est là qu'ils se tapent dessus. Donc, c'est une zone tampon. Donc, d'un point de vue géopolitique, c'est une zone sensible et qui a de la valeur. C'est intéressant d'avoir son pouvoir. Les Égyptiens, si les Égyptiens peuvent étendre leur pouvoir jusque dans cette zone-là, ça leur permet de mettre des garnisons égyptiennes de militaires là-bas, dans cette zone-là. Ça veut dire que si les Mésopotamiens arrivent, on peut les bloquer à cet endroit-là. Et le champ de bataille sera à cet endroit-là. Et du coup, on est tranquille, on est en paix en Égypte. Et réciproquement, si les Assyriens, les Néo-Assyriens notamment, là on est au 8e siècle avant notre ère, on est à l'époque Néo-Assyrienne, si les Assyriens peuvent mettre dans leur orbite les petits royaumes, les petits roitelets araméens et israélites, c'est parfait parce que ça veut dire qu'ils ont cette zone tampon qui leur permet de combattre les Égyptiens à cet endroit-là. Donc, mettez-vous à la place maintenant des petits roitelets qui habitent là, notamment le roi d'Israël, le roi de Juda. Eux, ils sont tantôt attaqués par l'un, tantôt attaqués par l'autre. Le réflexe est bien sûr d'aller voir d'aller chercher de l'aide auprès de l'autre quand on est attaqué par l'un. Or, précisément, Dieu leur dit non. Donc, vous voyez, on nous dit, par exemple, ici, chapitre 7, verset 11, verset 11b, ils ont fait appel à l'Égypte, ils sont allés en Assyrie. On en avait parlé encore récemment à propos de Jérémie. À l'époque de Jérémie, quand Nabucodonosor arrive, le peuple se dit, on va fuir en Égypte. Et Jérémie dit, non, il ne faut pas aller en Égypte, etc., etc. Donc voilà, j'insiste pas plus que ça. Ce sont des thèmes qu'on a déjà abondamment développés les semaines précédentes. L'Assyrie et l'Égypte reviennent. Hein. Regardez chapitre 8, verset 8. Ils sont montés en Assyrie. Verset 13, à la fin du verset 13, ils retourneront en Égypte. Donc on a de nouveau la mention de l'Assyrie et de l'Égypte. De nouveau chapitre 9, verset 3. Éphraïm retournera en Égypte. Ils mangeront en Assyrie. Éphraïm, c'est bien sûr Israël. C'est le royaume du Nord. On est à l'époque où il y a séparation au royaume du Nord, au royaume du Sud. Chapitre 10, on a la métaphore d'une vigne, une vigne luxuriante, une métaphore que vous connaissez bien, on l'a vu, Isaïe chapitre 5 déjà. Donc vous voyez, il y a vraiment une unité thématique sur l'ensemble du corpus prophétique dans la Bible hébraïque. Le chapitre 11 clôt cette deuxième section. On a un rappel historique, avec cette fois-ci un rapport non plus de... toujours ce rapport d'amour, si vous voulez, mais cette fois-ci... Israël est appelé son fils, chapitre 11, verset 1er, quand Israël était jeune, je l'aimais, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc on rappelle l'histoire du peuple d'Israël qui est le fils de Dieu. Il y a quand même cette notion d'amour, verset 4, je les ai tirés avec des liens humains, avec des chaînes d'amour. C'est beau, l'expression chaîne d'amour. Verset 5, ils ne retourneront pas en Égypte, c'est l'Assyrien qui sera leur roi. Donc vous voyez à chaque fois Égypte, Assyrie, cette bipolarité. Et puis donc la finale du chapitre 11, mais quand même, j'aurai compassion, j'aurai pitié. Mon cœur est bouleversé à la fin du verset 8, toute ma pitié s'émeut. Donc vous voyez, le cœur de Dieu est bouleversé. Donc Dieu qui est représenté avec cette fois-ci, ce rapport de filiation, peut-être ce rapport presque maternel, en tout cas avec le peuple, il les aime, son cœur est bouleversé, Dieu ne peut pas se résoudre à détruire définitivement son peuple, il l'aime, donc il va de toute façon... Il ne va pas détruire Éphraïm complètement. Verset 9, je n'agirai pas selon ma colère ardente, je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je ne suis pas un homme, mais Dieu. En ton sein, je suis saint, je ne viendrai pas avec fureur. Et donc, il dit, voilà, je ne vais pas les détruire. Ils reviendront, verset 11, ils accourront de l'Égypte et de l'Assyrie comme une colombe. Donc, vous voyez, il y a Égypte et Assyrie à nouveau, je les ferai habiter chez eux, déclaration du Seigneur. Donc, il y a toujours cette notion de restauration du peuple. Alors, petite parenthèse, je suis au chapitre 11, d'Égypte j'ai appelé mon fils, hors d'Égypte j'ai appelé mon fils, c'est cité, ce verset est cité dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2. Matthieu est l'évangile qui rapporte la descente de Jésus en Égypte. Il fuit parce que le roi Hérode veut faire tuer tous les premiers-nés et donc du coup ils sont divinement avertis par un ange et du coup ils descendent en Égypte le temps que Hérode meurt vers 4 avant notre ère. Et ce récit est propre à l'évangile selon Matthieu, et Matthieu légitime cette descente en Égypte en disant « Ainsi s'accomplit l'Écriture », et il cite Osée. Alors, ici, c'est très intéressant parce que ce n'est pas une prophétie. On ne dit pas « Voilà ce qui va se passer ». En fait, on rappelle l'histoire du peuple. Et donc, l'accomplissement des prophéties selon Matthieu, ce n'est pas uniquement de dire ces versets-là, ces prophètes-là, annoncer la venue de Jésus. En fait, quand l'Écriture s'accomplit, c'est parce que Jésus revit l'histoire du peuple. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Donc, le fait que Jésus, enfant, aille en Égypte, eh bien, c'est quand le peuple va en Égypte pour être protégé. Rappelez-vous, dans la Genèse, le peuple s'installe en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il fuit la famine. Et il est protégé de la famine en Égypte. Si l'Égypte n'avait pas été cette terre d'asile et de refuge, le peuple serait mort. Mais de la même manière, l'Égypte, ensuite, il y a la sortie d'Égypte, le baptême de Jésus, bien, quand le peuple traverse la mer Rouge et traverse le Jourdain sous Josué, eh bien, il y a cette notion de baptême. Le peuple est baptisé, si vous voulez, il traverse à pied sec, mais il y a quand même cette traversée. Eh bien, Jésus, de la même manière, est baptisé dans le Jourdain, etc., etc., etc. Jésus qui est mis à l'épreuve dans le désert. Jésus passe 40 jours dans le désert, le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Et d'ailleurs, dans Deutéronome, on dit « Je t'ai fait souffrir de la faim pour te mettre à l'épreuve, pour savoir si tu es fidèle ». C'est ce que nous dit le Deutéronome. quand vous lisez Deutéronome chapitre 6, 7, 8, etc., eh bien, de la même manière, Jésus est mis à l'épreuve dans le désert et il souffre de la faim. Donc, il y a clairement, dans l'évangile de Matthieu, en fait, l'accomplissement des prophéties. Et c'est pour ça que Matthieu peut citer Osée, ce verset d'Osée, sans le comprendre comme étant une prophétie qui annonce spécifiquement la venue du Messie. Alors, les chapitres 12 à 14, troisième partie du livre d'Osée, on revient sur la même thématique, on annonce la destruction et la restauration du peuple. Regardez, les derniers versets sont très beaux. Reviens, verset 2, Israël revient au Seigneur son Dieu. Verset 5, je guérirai leur infidélité, je les aimerai d'un amour généreux. Je trouve ça très beau. Vous voyez, dans ce prophète Osée, vous avez à la fois des paroles très dures, qui, en fait, montrent la douleur de Dieu. Rappelez-vous, tout au début, il y a cette notion d'amour marital. Dieu est, Israël est l'épouse de Dieu et Dieu souffre parce que sa femme le trompe, sa femme commet l'adultère, sa femme se prostitue, mais il l'aime quand même. Et donc, c'est un amour qui est déchiré, mais c'est un amour qui est profond. Et c'est un amour qui dure et qui durera. Je t'aime d'un amour généreux. Je serai comme la rosée pour Israël, etc. Enfin voilà, il y a des très belles choses. Alors on passe maintenant au prophète Joël. Je vois que l'heure tourne, il faut qu'on avance si on veut arriver quand même à faire au moins la moitié des petits prophètes. Le prophète Joël est plus court, 4 chapitres seulement, 2 sections, qui reprennent à chaque fois, disons, les thématiques standards, disons, du discours prophétique. Premièrement, on annonce le jugement et la destruction. Deuxièmement, on annonce le salut et la restauration. Ça devient finalement très banal. Donc la première section, elle va jusqu'au milieu du chapitre 2. Donc, le découpage en chapitre, du coup, est peut-être pas hyper intelligent. On aurait pu imaginer qu'on fasse une bonne césure en chapitre. Mais vous savez, le découpage en chapitre est très tardif, hein, au fait. Hein, je veux dire, je pense que vous savez, il n'y a pas de découpage en chapitre avant le Moyen-Âge. Donc, le découpage en chapitre ne fait pas partie intégrante, disons, du texte biblique au moment de sa rédaction. Donc, il faut aller jusqu'au chapitre 2, verset 17, en fait. Là, vous avez la première section. À partir du verset 18, chapitre 2, verset 18, là, on bascule vers l'annonce du salut et de la restauration. Le prophète Joël lui-même n'est pas connu, il n'est pas daté. Hein, contrairement au prophète Osée, on ne nous dit pas à quelle époque il a vécu, etc., contre qui il s'adresse. Et c'est très vague. Justement, on a un discours assez standard où on annonce le jugement, on annonce ensuite la restauration, mais il n'y a pas de données historiques. Donc c'est pratiquement impossible de dater. Alors il y a des propositions, bien sûr, hein, je vous laisse lire des commentaires si ça vous intéresse, mais concrètement, on n'a rien à se mettre sous la dent pour dire finalement ça fait écho à tel événement historique, ça a pu être écrit à telle époque, etc. On ne sait rien. Alors, dans le livre de Joël, quelque chose d'intéressant, c'est l'expression « le jour du Seigneur qui revient ». Moi, ça m'a frappé en le lisant. Elle ponctue régulièrement le livre de Joël. Regardez le chapitre 1er, verset 15. « Le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage du puissant. » Chapitre 2, verset 1er. « Le jour du Seigneur vient, il est proche. » Regardez au verset 11, 11b. « Le jour du Seigneur est grand, il est très redoutable. Qui pourra le supporter ?» Ça fait peur, hein ? On a cette idée un peu apocalyptique, le jour du jugement. On imagine déjà un film de science-fiction, je sais pas, ou avec... je sais pas, il y avait un film avec Schwarzenegger, Judgment Day, ou un truc comme ça. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais ça doit ressembler à ça. On continue, regardez, toujours pareil, hein, chapitre 3, verset 4. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Vous imaginez ? Le soleil qui change en ténèbres, la lune en sang. Chapitre 4, on retrouve encore cette expression, verset 14. Le jour du Seigneur est proche dans la vallée du verdict. Donc c'est le jour du jugement. Hein. Le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur clarté. Donc on a vraiment une notion cosmique. C'est le jour du, vous voyez, le jour du Seigneur dans le prophète, chez le prophète Joël, c'est la fin du monde, si vous voulez. Hein. C'est apocalyptique. Il y a des changements complètement cosmiques qui concernent le soleil, la lune, les étoiles, etc. Alors en même temps, dans ces prophéties de, c'est un jour. Si on regarde chapitre 3, verset 4, à la fois c'est un jour terrible, le soleil se change en ténèbres et en sang, mais, verset 5, quiconque invoquera le nom du Seigneur échappera, il sera sauvé, car au mont Sion, à Jérusalem, il y aura des rescapés. Donc il y a encore l'idée de rescapés, la théologie du reste, dont on a déjà parlé depuis le prophète Isaïe. En même temps, il y a cette possibilité de salut. Et ce qui est très intéressant dans le livre de Joël, c'est que cette prophétie de salut est liée à la prophétie, à l'activité prophétique sur l'ensemble du peuple. Regardez chapitre 3, verset 1er. Alors, quand je donne les références chapitre 3, c'est selon la tradition hébraïque. Il y a, dans certaines traditions chrétiennes, une numérotation différente. C'est-à-dire que le chapitre 3, là où nous, on a chapitre 3, verset 1er, c'est le chapitre 2 qui continue. Nous, par exemple, moi, dans ma Bible, ça s'arrête au verset 27. Chapitre 2, verset 27, ensuite ça commence chapitre 3. Ça, c'est la numérotation dans la Bible hébraïque traditionnelle. Dans certaines bibles chrétiennes, latines et du coup occidentales, c'est le verset 28, etc. Je ne sais pas comment c'est dans vos Bibles. Si vous avez un verset 28 dans votre chapitre 2, c'est que vous avez une numérotation en chapitre et en verset qui est occidentale, chrétienne occidentale. Sinon, c'est déjà le chapitre 3. Et du coup, là où la Bible hébraïque a un chapitre 4, en fait, c'est là que certaines Bibles chrétiennes occidentales commencent le chapitre 3. Et du coup, il n'y a pas de chapitre 4. Voilà, donc, je ne sais pas, selon les traductions de la Bible que vous avez et les numérotations en versets, c'est plus différent. Mais rappelez-vous, ce découpage en versets et en chapitres, c'est médiéval. Donc, je disais au chapitre 3, et donc j'adopte la numérotation des Bibles hébraïques, verset 1er, « Je répandrai mon souffle sur tous. » Vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos anciens auront des rêves, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Donc il y a des très belles choses. Donc la fin des temps, elle est marquée bien sûr par ce jour du jugement terrible avec cet apocalypse, etc. Mais en même temps, cette apocalypse, elle est aussi marquée par l'arrivée du souffle de Dieu sur l'ensemble du peuple. Et là encore, ce verset sera repris dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 2, si mes souvenirs sont bons, par la prédication de Pierre. Au chapitre 2, c'est la Pentecôte, les disciples reçoivent l'Esprit Saint, et Pierre prêche, et à la suite de son sermon, 3000 personnes se convertissent, et il dit, voilà, eh bien ce que vous voyez, l'accomplissement, tous ces gens qui parlent en langue, qui prophétisent, etc., eh bien c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Donc les milieux prophétiques, et notamment qui reçoivent ces manifestations spirituelles, hein, le souffle dont il est question, verset 3, en hébreu, c'est le même mot que le mot esprit. Donc le souffle de Dieu, c'est son esprit. Donc ces mouvements liés à la Pentecôte sont des mouvements intrinsèquement liés à l'Apocalypse, c'est-à-dire à la fin du monde. Et c'est très intéressant parce que c'est ce que vous voyez dans le livre des Actes, c'est également, d'un point de vue historique, ce qui est à l'origine de la naissance du mouvement pentecôtiste moderne. C'est-à-dire que au XIXe siècle, il y a déjà des mouvements piétistes avec les grands mouvements missionnaires. Mouvements missionnaires du XVIIIe et XIXe siècle, donc après le réveil méthodiste, hein, si vous voulez. Donc XVIIIe, XIXe siècle, les grands mouvements missionnaires en Afrique, en Asie, et on est convaincu de l'imminence de la fin du monde. Ça avait déjà été le cas en l'an 1000 de notre ère, au Moyen-Âge, on disait ça y est, l'an 1000, c'est un ton, c'est fond, c'est... Donc tous les millénaires, comme ça, on pense que c'est la fin du monde. Et c'est le cas, les gens pensent à la fin du 18e, notamment 19e siècle, au 19e siècle, les gens pensent que le retour du Christ est imminent, la fin du monde est proche. Et en même temps, ils ont ce souci d'annoncer à toute la création l'évangile. Et ils ont tous ces missionnaires partout, en Afrique et en Asie notamment, qui reviennent, qui disent c'est formidable, il y a des conversions par millions. Donc on se réjouit, et en même temps qu'on se réjouit, on se dit, mais attendez, à ce rythme-là, on n'arrivera jamais à annoncer l'évangile à toute la planète d'ici le retour de Jésus. Et ils se disent, mais comment faire pour être encore plus efficace dans l'évangélisation? Et c'est là qu'ils regardent le livre des Actes des Apôtres, en disant, mais bien sûr, Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem, attendez, Actes chapitre 1, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils se disent, c'est bien sûr l'Esprit-Saint avec les manifestations surnaturelles, miraculeuses de l'Esprit-Saint qui vont nous permettre de décupler notre efficacité dans l'évangélisation. Et donc, au milieu du XIXe siècle, déjà, commence à avoir cet intérêt pour la Pentecôte, l'expérience de la Pentecôte, et des églises commencent à prendre le titre d'église pentecôtiste. Alors, cela dit, les manifestations n'apparaissent que plus tard, à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle. Et c'est là qu'on a ces épisodes de gens qui reçoivent d'autres langues, alors ils parlent une autre langue inconnue, la glossolalie, se disent « Ah, mais quelle langue est-ce que j'ai reçue ?» On leur dit « Bah voilà, tu as reçu la langue, je sais pas, de la Malaisie, par exemple. » Alors, la personne prend un ticket pour aller en bateau jusqu'en Malaisie, pour être missionnaire en Malaisie, arrive sur place, finalement, manque de chance, elle ne parle pas malaisien et elle n'a plus qu'à rentrer bredouille. Sauf qu'il lui faut trouver de l'argent pour payer son ticket de bateau pour rentrer aux États-Unis ou en Angleterre. Donc il y a des histoires comme ça au début du XXe siècle qui sont assez amusantes. Mais donc, les manifestations de prophétie, de parler en langue, de guérison miraculeuse sont intrinsèquement liées à cette notion de fin du monde et de jour du jugement qu'on a ici dans Joël chapitre 3 et qu'on a également dans Actes au chapitre 1 et 2. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un petit parcours d'histoire des religions. Que dire d'autre ? Au chapitre 4, vous avez la fin du chapitre 4, je disais, est liée au début du livre d'Amos, puisque le verset 16 du chapitre 4, « De Sion, le Seigneur rugit, de Jérusalem, il fait retentir sa voix », juste après l'annonce au verset 14 de l'arrivée du jour du Seigneur, eh bien, on le retrouve dans Amos au chapitre 1, verset 2. Donc, il y a clairement un lien avec le prophète Amos. Donc, j'enchaîne avec le prophète Amos. Je suis désolé, il faut qu'on se dépêche. Lui, il est un peu mieux connu au niveau de sa biographie. D'une part, parce qu'on en tête, dans l'Incipit, on nous donne les noms des rois à l'époque desquels il a vécu. On est encore au 8e siècle. Donc, on est à peu près à l'époque du prophète Osée, de la même manière que plus ou moins contemporain. Et on a une petite notice biographique, ou pas une notice, mais en tout cas une petite parenthèse biographique au chapitre 7, des versets 10 à 17. Et on apprend notamment que Amos n'est pas prophète de métier. Chapitre 7, verset 14, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, je suis éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. » Donc il dit « Moi, ce n'est pas mon métier d'être prophète. » À l'époque, il y a des prophètes dont c'est le métier. On a des comptes, notamment dans les registres de comptabilité de cour royale, on a les salaires versés à des prophètes. Alors peut-être pas pour les royaumes d'Israël et de Juda, on manque de documentation, mais c'est très bien documenté, et ce, 1000 ans avant, par exemple au royaume de Marie, Marie sans E à la fin, le site de la ville de Marie, donc au 18e siècle avant notre ère, on a des tablettes cunéiformes, donc 18e siècle avant notre ère, c'est quand même 1000 ans avant, là on est au 8e siècle, donc 1000 ans avant, et on a la liste des fonctionnaires, si vous voulez, et on a parmi les fonctionnaires des prophètes. Et on a leur salaire, et donc ce sont des fonctionnaires royaux, ils sont payés pour être prophètes, ils sont prophètes de métier. Donc j'insiste bien, le prophète, c'est quelqu'un qui peut en faire son métier à l'époque. Ce qui n'est pas le cas précisément d'Amos, qui dit, alors moi pas du tout, moi je suis pas prophète, c'est pas mon métier, moi je suis éleveur, je suis cultivateur. Voilà. Et donc finalement c'est pas de ma faute, j'ai pas demandé à être prophète, et évidemment, par là même, ça veut dire qu'un prophète qui est payé par le roi, il est un peu obligé d'être soumis au roi et de faire ce que le roi lui dit, et en particulier de prophétiser ce que le roi a envie d'entendre. Alors rappelez-vous, quand on a vu chez les prophètes précédents, Jérémie, Ézéchiel, etc., quand on a les chapitres entiers contre les prophètes, et les faux prophètes qui disent « oui, oui, tout va bien », mais en fait c'est faux, tout va pas bien. Donc ce sont des mauvais conseillers du roi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la solde du roi, tout simplement. Donc on critique tous ces prophètes qui sont vendus, si vous voulez. Ils sont à la solde du roi. Alors, ce qui n'est pas le cas d'Amos. Alors, ce livre d'Amos est lui aussi composé de trois parties, à peu près, de taille à peu près régulière, et à chaque fois, c'est des chapitres qui font, des sections qui font deux, trois chapitres. Les deux premiers chapitres, chapitres 1 et 2, sont écrits, ce sont des oracles contre les nations. Donc ça répond à un genre littéraire qu'on connaît bien, on l'a vu, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, à chaque fois on a ces chapitres entiers contre les nations, on les passe en revue, chapitres 1 et 2. Ensuite, chapitres 3 à 6 se focalisent contre Israël spécifiquement. Et puis les chapitres 7 à 9 sont des chapitres où l'on trouve 5 visions prophétiques. Alors c'est intéressant parce qu'on a des visions prophétiques. Donc c'est un genre particulier. Donc voilà les 3 sections du prophète Amos. Alors les 2 premiers chapitres, je ne vais pas m'y étendre, simplement vous retrouvez encore, on passe en revue toutes les nations avoisinantes. Regardez verset 3, il est question de Damas. Donc Damas, c'est le royaume araméen. Hein, on le dit verset 5, il est question le peuple d'Aram sera exilé à Kir. Donc, les Araméens. Ensuite, verset 6, Gaza. Gaza, c'est une des villes de la Pentapole philistine. D'ailleurs, on retrouve Ashdod, verset 8, Ashkelon, également verset 8, etc. Donc, ce sont des villes philistines. Ensuite, au verset 9, il est question de Tyr, donc ce sont les Phéniciens. Au verset 11, il est question d'Édom. Donc, on a les Édomites. Verset 13, les Ammonites. Chapitre 2, verset 1er, Moab. Chapitre 2, verset 4, Juda. Verset 6, Israël. Alors c'est drôle parce que du coup, Juda et Israël ont aussi droit, sont aussi mentionnés parmi ces oracles prophétiques. Donc on fait le tour de toutes les nations et on inclut Juda et Israël. Donc c'est la spécificité de ces deux chapitres, cette section d'oracle contre les nations, c'est qu'en réalité, Juda et Israël sont dans l'eau. Les chapitres 3 à 6 ensuite, ce sont donc des oracles spécifiquement contre Israël. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va retrouver les notions habituelles. On va retrouver l'infidélité du peuple. On va retrouver la mention de l'exil, chapitre 5, verset 5. On va retrouver la mention du reste. Chapitre 5, verset 15, le reste de Joseph. La mention du jour du Seigneur, verset 18. Qu'attendez-vous du jour du Seigneur, verset 18 ? Il ne sera pas lumière, mais ténèbres. Verset 21, on retrouve la polémique contre la religiosité du peuple, et en particulier les sacrifices. Regardez verset 21, « Je déteste vos fêtes, je les rejette, je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. » Rappelez-vous, on avait vu ça déjà chez Isaïe. Et Dieu disait, je déteste vos fêtes, etc., etc. Donc, on retrouve la même chose ici. Verset 23, éloigne de moi le tumulte de tes chants, je n'écoute plus le son de tes luttes. Donc, voilà, Dieu ne peut pas entendre, ne peut pas voir, ne peut pas sentir tous les rassemblements cultuels du peuple. Ce qui prouve bien qu'il ne s'agit pas de faire les choses, mais ce que Dieu regarde, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Alors, je me dépêche, je voudrais quand même avancer un peu. Chapitre 7 à 9, on a les 5 visions du prophète Amos. Donc c'est le genre prophétique, c'est particulier, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas simplement une révélation où le prophète entend la voix de Dieu qui lui parle et il répète les paroles de Dieu, mais il voit des choses. La première vision, le chapitre 7, le Seigneur me fit voir des choses, alors qu'il y a des criquets. Il dévore entièrement l'herbe du pays et donc c'est une image du jugement de Dieu. Verset 4, le Seigneur, on voit une image du Seigneur proclamer le jugement par le feu, donc autre image, le feu. Troisième vision, verset 7, un mur d'étain. Alors, ce sont des oracles qui sont parfois difficiles. Hein. On a fait, il y a quelques années, un séminaire de master et doctorant avec Regine Hunziker sur ces oracles prophétiques d'Amos. C'est parfois difficile de comprendre exactement quelle est la métaphore et quelle est l'image. Donc, si on a du mal à en parler à un séminaire master-doctorat, vous comprendrez que je n'ai pas le temps de m'y attarder ici. On fait juste un survol. Mais en tout cas, c'est assez fascinant. On a cette petite parenthèse biographique, les versets 10 à 17 du chapitre 7. Chapitre 8, on revient, quatrième vision, une corbeille de fruits. Et puis, au chapitre 9, la cinquième vision. Et c'est, il voit le Seigneur posté près de l'autel. Et apparemment, il faut frapper le chapiteau, les seuils, etc. etc. Enfin bref, donc il y a encore une vision de destruction. Et ça se termine par la mention, bien sûr, de la restauration. Chapitre 9, verset 11, « Je relèverai la hutte chancelante de David. J'en réparerai les brèches, etc. etc. » Et donc, on voit la restauration du peuple. Verset 14, « Je rétablirai la situation d'Israël, mon peuple. Ils rebâtiront les villes, etc. » Donc, il y a l'idée de restaurer, de rebâtir la maison de David, et en particulier, là il est bien mention de David encore, donc il y a l'idéologie davidique, c'est-à-dire que c'est la dynastie de David, on attend un roi descendant de David. Alors j'ai encore quelques minutes, je continue. Abdias, très court, 21 versets, un seul chapitre. C'est le livre le plus court de la Bible hébraïque. Donc vous pourriez par exemple l'apprendre par cœur en hébreu et dire, mais bien sûr, je connais un livre entier de la Bible par cœur en hébreu. Bon. Vous pouvez frimer si vous voulez. Alors c'est un livre, donc un chapitre. Ce chapitre n'est pas adressé, alors c'est assez original, ce chapitre n'est pas contre Israël, n'est pas contre Juda, il est contre Édom. Dès le premier verset. Voici ce que le Seigneur dit à Édom. Et donc, on dit, voilà... Alors, Édom, c'est Ésaü à plusieurs reprises. Et on estime que le peuple d'Édom, en fait, ce sont les descendants d'Ésaü. Dans la Genèse, alors, ce sont les récits, hein, c'est les récits des patriarches, je ne dis pas que c'est historique. Dans la Genèse, il y a Jacob et Ésaü qui sont deux frères. Et Ésaü est l'aîné, mais Jacob va supplanter son aîné Ésaü. Je ne reviens pas sur cette histoire-là. Simplement, on estime que les descendants d'Ésaü, c'est Édom. Donc, dans ce chapitre-là, évidemment, vous voyez, on parle d'Ésaü, verset 6, verset 10, il est question de Jacob, ton frère, etc., etc. Donc, ce sont des frères ennemis, en fait. Et on apporte des oracles de jugement. Le jour du Seigneur est proche, verset 15. On retrouve cette expression du jour du Seigneur. Bon. Alors, la seule question qu'on se pose par rapport à Abdias, c'est de dire, mais pourquoi on a écrit ça et à quelle époque? Alors, il y a plusieurs dates possibles, aucune indication historique particulièrement. On sait qu'ils ont fait des choses, hein, verset 10, à cause des violences exercées contre Jacob, ton frère. On dit à quelle époque est-ce que les Édomites ont attaqué les Israélites? Alors certains disent que c'est au 9e siècle avant notre ère, parce que Édom prend son indépendance à l'époque du roi Joram. Donc, c'est raconté dans 2 Rois, chapitre 8. Alors on se dit, est-ce que c'est à cette époque-là? Est-ce qu'on est au 9e siècle et qu'on condamne Édom qui avant était... possible, qui était peut-être sous l'influence, sous la domination israélite et qui s'est détaché en tout cas du royaume de Juda, là, pour en l'occurrence. Est-ce qu'il s'est au contraire au 8e siècle, à l'époque de la coalition et de la crise syro-éphraïmite, de la fin du 8e siècle, où donc les gens sont occupés avec ce qui se passe en arabe, Édom qui est au sud, je rappelle qu'Édom c'est la Jordanie actuelle, c'est au sud, c'est le Negev, légèrement à l'est, hein, c'est au sud de la mer Morte. Donc, eux profitaient du fait que tout le monde était occupé au nord pour prendre du terrain, pour attaquer Juda au sud. Là, c'est raconté dans 2 Chroniques, chapitre 28. Ou bien, est-ce qu'il faut aller jusqu'au 6e siècle avant notre ère, ou à l'époque où Nabuchodonosor, bien sûr, détruit Jérusalem, déporte une partie de la population en Juda, les voisins du sud, Édomites, profitent de la situation pour attaquer les Juda. Donc, on ne sait pas trop. Et puis je termine avec Jonas. J'aimerais quand même aller avec Jonas. Un livre court, 4 chapitres. Moi, ça tient sur une double page de ma Bible. Une petite histoire qui tranche les 12 petits prophètes. Vous avez vu, c'est des oracles, c'est des visions, c'est des complaintes, etc. Là, pas du tout. C'est une histoire. C'est un texte narratif. On vous raconte une histoire, etc. Il parle, il fait quelque chose, etc. Donc, le genre littéraire est totalement différent. C'est unique au sein du corpus des 12 petits prophètes et du corpus prophétique dans son ensemble. C'est l'histoire de Jonas, que vous connaissez bien. Dieu lui dit d'aller à Ninive, il va dans la direction opposée. Finalement, il fait naufrage, il est avalé par le poisson, il prie, il s'en sort, il revient, il y va, et le peuple se repent, mais il n'est pas content. Voilà, ça c'est la petite histoire. Les enjeux du livre de Jonas, c'est bien sûr la question du rapport entre Israël et les autres nations. Est-ce que nous voulons annoncer la parole de Dieu aux autres nations ? Pas simplement des oracles contre les nations en disant « Dieu va vous punir », mais en espérant qu'ils se repentent. Est-ce qu'on veut que les autres nations se repentent? Est-ce qu'on veut que les autres nations soient sauvées, finalement? Est-ce que Yahvé est simplement notre Dieu? Ou est-ce que c'est le Dieu des autres peuples? Est-ce que c'est un Dieu universel? C'est la question, évidemment, du prosélytisme. Est-ce que moi, en tant que judéen et juif plus tard, est-ce que j'ai envie que les autres deviennent juifs ou pas? C'est aussi la question du rapport entre le prophète et son Dieu. Est-ce que j'obéis ou non à la parole de Dieu, y compris quand elle ne me plaît pas? Voilà les enjeux du livre de Jonas. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous verrons les autres petits prophètes. Pas la semaine prochaine, c'est les vacances, donc dans 2 semaines. C'est les vacances la semaine prochaine. Voilà. Donc vous pouvez continuer à lire. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut prendre quelques minutes, mais il y a un cours après, donc malheureusement, on n'a pas autant de temps qu'on voudrait.